14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Encore une sortie de village, non loin des habitations mais à l'abri des regards. Encore des sacs noirs fermés avec un gros nœud et encore des noms de lieux en forme de provocation. Rue du Dépôt, le long du canal de la Haine où deux fanetrons avaient déjà été retrouvés.
Bonjour, c'est un tueur en série sans visage qui hante depuis 25 ans la mémoire des policiers belges, l'un des pires sadiques répertoriés dans l'histoire du crime. 5 femmes retrouvées dépecées de façon quasi chirurgicale, 5 cadavres disséminés sur des lieux dont les noms semblent chargés de symboles. La rivière de la haine ou encore le chemin de l'inquiétude. Un jeu de pistes macabre aux confins de la France et de la Belgique. De quoi conférer à ce tueur un surnom évocateur, celui du dépeceur de Mons, la ville à l'épicentre de ce massacre. Malgré une longue enquête, la mobilisation de centaines de policiers, pas moins de 1700 pistes passées au crible, le dépeceur de Mons reste anonyme. Un cold case qui pourrait rester sans réponse car il est sur le point d'être prescrit. Qui peut-être cet assassin qui découpait méticuleusement des femmes qui se ressemblent étrangement? Comment a-t-il réussi à ne laisser aucun indice? A-t-il frappé ailleurs, comme les enquêteurs le pensent? Autant de questions et bien d'autres que nous allons poser à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire du dépeceur de Mons en Belgique. Au printemps 1997, une série de terrifiantes découvertes secoue la capitale du Hainaut, proche de la frontière française, la toute première page du scénario d'un film d'horreur. Ce samedi 22 mars 1997 au matin, le policier Olivier Motte, chef de la brigade équestre de Mons, patrouille sur son cheval au sud de la ville, dans la proche banlieue de Cuem. C'était une journée fraîche et plutôt ensoleillée, se souvient-il avec précision. Le policier arpente la rue Émile van der Velde, à l'endroit où elle borde la ligne de chemin de fer Paris-Bruxelles. Son attention est attirée par un gros chat roux qui, dans le talus, s'acharne sur ce qui paraît être un jouet en plastique. Olivier Motte finit par distinguer ce qui ressemble à une main blanche, probablement celle d'un mannequin désarticulé, jeté là par un commerçant peu scrupuleux. Le policier est toutefois pris d'un doute et décide de descendre de sa monture. Il ne s'est pas trompé. C'est bien une main qui émerge d'un sac poubelle noir, mais une main ensanglantée, une main humaine. Le sac, jeté en contrebas de la chaussée, semble contenir d'autres restes de la victime. Le commissariat de Mons est alerté, le secteur bouclé. À la mi-journée, une vingtaine de policiers s'affairent autour du talus. Le procureur, puis le juge d'instruction, Pierre Pilette, accompagné de son greffier, arrive sur place pour superviser les premières constatations. Le procureur, Pierre Honoré.
Je suis descendu à la suite de la découverte de 2 sacs à l'effigie du magasin Deleuze, tels que ceux que nous avons découverts. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le découpage est du même type.
Il n'y a pas un seul sac poubelle qui contient des restes humains, mais 2, 3, 4, 5, 6, 8 au total sont découverts sur une centaine de mètres. Ils ont été disséminés tout au long du talus de façon méthodique, tous parfaitement attachés pour les rendre hermétiques. Le 8e sac a été lui suspendu dans les branchages dans une espèce de mise en scène qui pourrait évoquer l'exposition d'un trophée. Les paquets contiennent des morceaux de bras, de bustes, de jambes qui n'appartiennent pas en fait à un seul individu mais à 3 personnes différentes. Uniquement des femmes, adultes selon les examens des légistes, toutes âgées entre 20 et 40 ans environ. Elles ont été méthodiquement découpées comme on le ferait dans un laboratoire de boucherie. Le bras de l'une des victimes porte un tatouage. Le tueur a conservé les têtes ou les a dissimulées ailleurs. Elles ont disparu. Le lendemain de la découverte des restes humains, le dimanche 23 mars, un 9e sac est repéré aux abords de la rue Émile van der Velde. Il renferme un buste de femme, portant ainsi à 4 le nom des malheureuses victimes. Lundi 24 mars, un 10e sac enfermant ce qui semble être à nouveau un buste est retrouvé près de la rivière La Haine, au carrefour du chemin de l'inquiétude et de l'avenue des Bassins. Les 12 et 18 avril, d'autres sacs ont été abandonnés rue du Dépôt à Avray, une petite commune près de Mons. Cette fois, le sac contient une tête de femme qui a été découpée avec minutie à la hauteur des vertèbres cervicales. Au mois d'août, un autre crâne sera découvert par des enfants jouant dans un verger à Yon. dans la campagne avoisinante. 5 femmes tuées au total. 37 morceaux de corps découverts, toujours laissés à des endroits aux noms évocateurs. La rivière La Haine, le chemin de l'inquiétude, la rue de la Trouille, ou à des adresses chargées de symboles, l'avenue des bassins, car le tueur dépèse toujours à hauteur des bassins, ou encore la rue Saint-Symphorien, un martyr chrétien décapité. Les enquêteurs ne croient pas au hasard. Et voilà donc pour cette scène de crime dans cette petite ville de Mons en Belgique. Alors évidemment, on ne sait pas à ce stade de l'enquête qui sont les victimes. On va le découvrir d'ailleurs assez rapidement. Et on va en parler dans les chapitres suivants de ces victimes, parce qu'effectivement, c'est grâce à elles, sans doute, qu'on va pouvoir remonter une quelconque piste. Bonjour Ronald Dersin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes photographe de presse pour l'édition belge de Paris Match. Et je crois que quand il y a eu la découverte de ces sacs, vous êtes rendu sur place et vous avez pu assister à cette scène pour le moins macabre. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, je venais de commencer mon activité et j'étais photographe indépendant. Et donc, cette journée du 22 mars a commencé par un appel d'un informateur qui me prévenait d'un incendie dans la région, un incendie important. Et quelques minutes plus tard, pour m'assurer de l'importance du fait divers, je l'ai rappelé. Et là, il m'a annoncé que quelque chose d'important était en cours et qui n'avait rien à voir avec l'incendie dans la région de Couëm. Donc j'ai directement pris la route en ne sachant toujours pas où j'allais en fait, mais bon voilà, c'est pas bien grand, donc j'ai pris les artères et puis je suis arrivé directement par hasard finalement sur ce pont Émile van der Velde. Il n'y avait pas encore de périmètre de sécurité, il y avait juste une ou deux camionnettes de police. Avec des enquêteurs au bord du fossé où il y avait les sacs, mais je ne savais toujours pas qu'il y avait des sacs.
Ouais.
Voilà. Et puis je me suis approché des lieux et j'ai vu cette quantité de sacs remonter du fossé où ils triaient et puis ils ont emporté dans des fourgons des pompes funèbres.
C'est ça.
Voilà.
Vous avez le sentiment à l'époque, Ronald Dersin, que les sacs, ils ont été déposés là, ils ont été jetés, ou bien est-ce qu'on a mis vraiment un point d'honneur à ce qu'on les retrouve?
Je pense que comme toute cette affaire, il y a aussi peut-être une symbolique avec ces noms de lieux.
Bien
parce
sûr.
Que le pont Émile van der Velde, Émile van der Velde était un ancien ministre belge, et notamment c'est lui qui a instauré la loi contre l'alcoolisme. Et donc, en sachant que toutes ces personnes étaient d'un milieu...
Oui, on va y venir, voilà. Effectivement, un milieu fragile, un milieu exposé, effectivement, à l'alcool ou aux stupéfiants. On va y venir. Vous prenez très vite conscience, Ronald Dersin, que c'est une scène glaçante, quand même. Vous vous rendez très vite compte de l'ampleur des dégâts, si je puis dire.
En fait, il se passe quelque chose. Vu le nombre de sacs qui remontent, on a pour information que c'est des restes humains. Vu le nombre de sacs, ça ne peut être que quelque chose de très important.
Bien sûr.
Évidemment. Mmh. Et ce ne sera que le soir. À quelques heures plus tard, ils ont mis un périmètre de sécurité, donc on n'avait plus accès à cette zone. Mais ce ne sera que le soir, quand toute la presse a été convoquée pour une conférence de presse, qu'on a appris l'ampleur de cette affaire, en fait.
Bien sûr.
Qu'on nous annonçait toutes ces victimes.
Alors, notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est Liliane Schroven. Bonjour, Liliane Schroven.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes écrivain en Belgique, auteur du livre Les grandes affaires criminelles de Belgique aux éditions de Boré. Et votre dernier livre, je le cite, c'est L'alphabet du destin, nouvelle aux éditions Quadrature. Liliane Schroven, on a l'impression que il y a un rituel qui est mis en place. On a parlé des noms de lieux, on a parlé de ces sacs qui sont disposés de certaines manières. Tout a été fait pour effectivement désigner cette scène aux enquêteurs.
Oui, en effet, c'est tout à fait étonnant. Les noms de lieux, c'est proprement incroyable. On pourrait presque parler d'humour macabre. Les victimes ont pas mal de points communs et leur point commun principal, c'est qu'elles sont toutes des marginales. D'une manière ou d'une autre, il y a des prostituées, il y a des alcooliques, il y a une SDF. Elles ont presque toutes, en tout cas 4 sur 5, été hospitalisées dans le même institut psychiatrique. Donc ce sont des femmes, en fait, qui ne risquent pas qu'on les recherche, ou en tout cas qu'on les recherche.
Bien sûr, mais ça, on va y venir, Liliane Schroven, à ces femmes et à ces victimes et à leur trajectoire, parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus important dans cette affaire. Simplement, au niveau, je veux dire, de la symbolique que vous soulignez, on a un individu qui, d'ores et déjà, prend un malin plaisir à fabriquer une scène de crime exceptionnelle.
C'est ça. À ceci près que, comme l'a dit à l'époque le procureur, il n'y a pas de scène de crime. Parce qu'on ne sait pas, évidemment, où ni comment il les a tués, ni même dans quel délai, puisque certains corps ont de toute évidence été conservés dans des surgélateurs. Et donc, on ne peut pas dater exactement la date du décès.
Ce qui rend encore l'affaire plus exceptionnelle, parce qu'il a décidé, ce bonhomme, de déposer là les sacs tous ensemble à un moment bien précis. Bonjour, Alessandra D'Angelo.
Bonjour.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes ancienne avocate au barreau de Bruxelles, journaliste d'investigation. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux, un psychopathe n'est pas amendable, aux éditions Now Future. Alessandra D'Angelo, on parle justement, vous avez écrit un bouquin sur Dutroux. Là, à cette époque, on sort de l'affaire Dutroux. Il y a ces femmes en morceaux qui sont retrouvées dans des sacs. Mais on ne sait pas d'où elles viennent et qui elles sont pour l'instant, parce qu'effectivement, les disparitions de femmes, on s'en occupe pas tellement.
Alors, ce que je voulais d'abord vous préciser en préambule par rapport aux deux premiers intervenants, c'est qu'au niveau de la typologie de la scène de crime, on sait aujourd'hui, les sciences du comportement nous disent quoi ? Qu'il y a deux types de scènes de crime, organisées et désorganisées. Ici, à tout le moins, elle est organisée. Et un auteur qui met en place une scène de crime organisée, on sait aujourd'hui qu'il est quoi ? Qu'il est d'intelligence moyenne à supérieure, qu'il a une formation intellectuelle, donc il a fait des études, qu'il est d'un milieu social médian, voire très élevé, qu'il a une bonne stabilité professionnelle, qu'il lit la presse concernant son affaire et qu'il vit en couple, ce qui nous ramènera après notamment à faire des analogies avec Dutroux et Fourniret. Alors ici, cet auteur nous fait un peu penser à Dino Scala, le violeur de la Sambre, qui sera prochainement jugé. Ce sont des messieurs... il était, si cela se trouve, il était parmi les badauds, il était parmi les témoins de la scène. C'est ce qu'on appelle en fait le syndrome du garçon d'à côté. C'est le voisin dont on ne soupçonne sans doute pas qu'il peut commettre ce genre de choses.
Alors c'est important, Alessandra D'Angelo, ce que vous dites, parce que on va en parler. Mais dès le début, d'après vous, on sait à peu près, on a une idée de ce que est ce personnage aujourd'hui, en tout cas.
Alors non, vous devez vous remettre 20 ans en arrière, et il y a 20 ans, nous en étions encore au balbutiement des sciences du comportement. Aujourd'hui, elles sont très à la mode, d'où toutes les séries, Mes experts, etc., le mentaliste. Mettez-vous, il y a 20 ans, on n'en était qu'au tout début, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle nous aurons très certainement dans les grandes affaires judiciaires de moins en moins de cold case, parce que toutes ces sciences viennent compléter les enquêtes.
Et on va continuer à en parler. Dans cette heure du crime, la terreur à l'époque est palpable, car les découvertes de corps ne vont pas s'arrêter là. Celui que l'on va appeler le dépeceur de Mons a étendu son jeu de piste bien au-delà de la rue Émile van der Velde, dans des lieux toujours sélectionnés avec perversion. Les policiers et le juge Pilette sont convaincus qu'un seul homme est à l'origine de ce carnage. Un tueur en série animé d'une folie meurtrière évidente qui a certes le goût morbide du spectacle, mais qui ne laisse derrière lui ni indice, ni empreinte. Il cible des femmes qui peut-être se connaissaient. Pour en avoir le cœur net, il faut au plus vite identifier les victimes. Dès les premières heures, les enquêteurs font le rapprochement avec le repêchage 8 mois avant la découverte des sacs. du tronc d'une femme dans la rivière La Haine, celle d'une Française de 43 ans, Martine Beaune, installée depuis plusieurs années dans la région de Mons. Une femme qui menait une existence précaire et isolée, se livrant, semble-t-il, de temps à autre à la prostitution pour survivre. Elle venait de recevoir une forte somme d'argent des assurances suite à un grave accident quand elle a été assassinée. Des restes de son corps seraient dans l'un des sacs. La deuxième victime, formellement identifiée, est Jacqueline Leclerc, 33 ans, une mère de 4 enfants dont elle n'a plus la garde, en instance de séparation et gagnant sa vie comme femme de ménage. Elle avait disparu 3 mois auparavant, 22 décembre 1996, après avoir été déposée par sa sœur Georgette devant chez elle, rue Malabert, à Mons. Sa famille avait remué ciel et terre pour la retrouver, lancé une campagne d'affichage dans toute la région. Mais le signalement n'avait pas entraîné de véritable enquête. J'ai demandé à un ami policier si on avait retrouvé un tatouage sur un bras. Il m'a répondu oui, c'était bien ma sœur, déplore Georgette. Une troisième victime, Nathalie Godard, 21 ans, mère d'un enfant confié à un foyer, est également identifiée. La tête retrouvée à Cuem est la sienne. La jeune femme avait rompu tout lien avec sa famille. Celle-ci n'avait plus de nouvelles depuis longtemps et n'a jamais signalé sa disparition. Nathalie était locataire d'un petit meublé dans le quartier de la gare. Elle n'avait plus d'argent, se livrait parfois à la prostitution pour satisfaire ses besoins stupéfiants. Des témoins affirment qu'elle a traîné à une époque avec Martine Beaune, la victime française du dépeceur. Le 15 mars, peu avant de disparaître, elle avait été retrouvée inerte dans une rue de Gemap, un malaise dû peut-être au manque de drogue. Elle avait refusé d'aller à l'hôpital. Les légistes ont détecté sur le tronc de Nathalie des traces de violence sexuelle. Celles-ci font l'objet d'analyses génétiques. Les enquêteurs sont persuadés que l'assassin connaît bien le milieu des marginaux et le quartier de la gare de Mons. Certaines victimes y avaient, semble-t-il, leurs habitudes. Un quartier pas très bien fréquenté, qui compte une succession de bars à hôtesses, des sex-shops, des studios, occupés par des prostituées et des dealers. Après une série de bagarres nocturnes, la gare a d'ailleurs décidé de fermer ses portes à 22h30. Le dépeceur aurait choisi ses proies au sein de cette faune fragile et noctambule. Jeune femme en déshérence, vulnérable, facile à approcher. Dans ce paysage, seul le profil de Jacqueline Leclerc ne semble pas cadré avec ceux des autres victimes. Des marginaux sont interrogés, amenés au commissariat, mais aucun ne peut être relié au crime. Le parquet de Mons a au total listé 6 témoins dignes d'intérêt, 6 hommes dont les portraits robots sont publiés dans les journaux, 6 individus recherchés. Et on va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime ce que vont donner ces recherches qui concernent 6 hommes pour le moment. C'est savoir si ces suspects vont pouvoir être localisés et questionnés. Le fait est que l'enquête avance assez vite avec ces identifications capitales. Alessandra D'Angelo, ancienne avocate et journaliste, vous connaissez très bien cette affaire. Est-ce que ces femmes que l'on identifie les unes après les autres se connaissaient ?
Non, elles ne se connaissaient pas entre elles, mais pour préciser ce que vous venez d'admirablement bien résumer, ces victimes ne correspondent pas à un profil choisi par l'auteur présumé. Elles sont simplement choisies parce qu'elles sont marginalisées et qu'elles sont des proies plus faciles. Il faut savoir qu'un psychopathe, tous les psychopathes qui ont été actuellement analysés, ont toujours la même construction de personnalité, à savoir une mère à l'image, à l'identité très forte, donc une construction très difficile par rapport à l'image des femmes. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle en sciences du comportement le sentiment de culpabilité qu'ils nourrissent provenant de leur complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe, je vous rappelle, on veut tuer sa mère pour avoir un rapport sexuel. On veut tuer son père, pardon, pour avoir un rapport sexuel avec sa mère. Et donc, en fait, ce sont les autres femmes qui payent par rapport à cette frustration originelle qu'il doit sans doute avoir dans sa relation maternelle. Et elles sont juste choisies parce qu'elles sont plus faibles et qu'elles sont marginalisées. Et ce pourquoi, d'ailleurs, la dernière ne correspond pas au profil.
C'est ça, c'est celle de mère de famille, si je puis dire, qui fait des petits boulots de femme de ménage et qui ne correspond pas à ce profil. Ça veut dire que chaque fois, Alessandra D'Angelo, ce sont des femmes fragiles, vulnérables, qui sont attaquées parce que ce sont des proies qu'on peut immédiatement capter.
Effectivement. Or, la femme forte qu'ils recherchent toute leur vie, ils ne peuvent pas l'atteindre. Donc, et d'ailleurs, ici, vous le voyez bien, il n'y a aucun abus sexuel. Donc, aucune de ces femmes n'a été violée. Donc, ce n'est pas le mobile. D'ailleurs, un psychopathe, je tiens à préciser également, parce que vous parliez de mobile en début d'émission, un psychopathe qui bascule dans l'agir criminel n'a absolument aucun mobile. Voilà, quand on fait un braquage, c'est pour voler. Quand on deal, c'est pour fumer. Ici, ce sont simplement des personnes qui compensent une personnalité abandonnique. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, en général, et pas en général, on ne peut pas faire résilier. Un psychopathe ne peut pas être dans la rédemption. Ce pourquoi j'avais d'ailleurs dit que Marc Dutroux ne peut pas sortir de prison. Il recommencerait dans son agir criminel. Mais un psychopathe ne se soigne pas.
Un psychopathe ne se soigne pas, effectivement, ça fait partie. Certains psychiatres l'affirment haut et fort, et ce, depuis des années. Liliane Schroven, écrivain, et vous connaissez bien les grandes affaires criminelles en Belgique. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui porte ce nom. On a l'impression que ce tueur, ce psychopathe, il fréquente ce quartier de la gare, ou en tout cas ces lieux un petit peu nocturnes et interlopes.
Oui, tout à fait. Il connaît les lieux, ça c'est une certitude. Il est originaire, ou en tout cas, il fréquente beaucoup la ville de Mons. Et un des éléments clés, c'est d'ailleurs que les sacs poubelles qui ont été utilisés proviennent d'une solderie qui a récupéré des lots de sacs poubelles invendus de la ville de Knokke à la mer du Nord, et qui les vendait là à bas prix. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, parmi les milliers de pistes et de dénonciations possibles, je me souviens qu'au moment de la sortie du livre, j'étais au salon du livre de Mons, précisément, et donc il y a des tas de gens qui venaient m'en parler, etc. Et il y a notamment un monsieur très étrange qui est venu me dire que lui, il savait qui était le tueur. Évidemment, j'ai tout de suite dit, je vous en prie, expliquez-moi. Et en fait, il m'a dit que la police n'avait pas investigué du côté de la solderie, qui, comme par hasard, avait fermé ses portes très peu de temps après. Et dans la mesure où tous les sacs poubelles venaient de là, il en déduisait que c'était le commerçant en question qui était probablement le coupable.
Alors c'est étonnant comme l'anecdote que vous racontez, parce qu'on a l'impression que cette personne était particulièrement bien informée, si je puis dire.
Voilà, maintenant, beaucoup de gens qui étaient proches de l'enquête ou beaucoup de journalistes étaient bien informés, évidemment. Et puis à Mons, c'est quand même une ville qui n'est pas très très grande, et l'affaire a fait grand bruit, donc tout le monde se connaît un peu, tout le monde discute sur le coin de la rue. Et voilà, donc moi, le type est parti, je ne savais pas du tout qui il était, donc j'ai pas pu aller plus loin, évidemment. Mais ça montre qu'il y a eu énormément de dénonciations ou de suspicions qui ont été communiquées à la police. Dont la plus importante a été celle de ce médecin qui a été dénoncé.
On va y venir, Liliane Schroven, effectivement, parce qu'il a les suspects, ça sera dans le chapitre suivant. Je voudrais qu'on entende Ronald Dersin, photographe de presse pour l'édition belge de Paris Match. Je suppose que vous avez fait ces photos à l'époque, etc. Vous êtes parmi les premiers journalistes qui étaient sur cette scène de crime, on va l'appeler comme ça, entre guillemets. Je suppose qu'il y a une émotion terrifiante à Mons, dès lors que ces crimes sont découverts. C'est une espèce de psychose qui doit s'emparer de la ville.
Ah oui, complètement. Il y avait une psychose, il y avait une ambiance complètement anxiogène. J'allais régulièrement, puisqu'on savait que l'origine devait se passer aux alentours de cette gare, j'allais régulièrement dans le quartier pour faire des images le soir, un peu d'ambiance, etc. Et je dois vous avouer que c'était vraiment un climat très étrange. En fait, j'ai l'impression que tout le monde se soupçonnait, tout le monde était, enfin voilà, c'était très étrange comme ambiance, et ça a duré des mois et des mois comme ça.
On avait le sentiment qu'il y avait un tueur qui rôdait en ville, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est exactement ça. On avait vraiment l'impression qu'il était là, qu'il était dans l'ombre et qu'il regardait ce qui se passait. Voilà, il était vraiment présent, en fait. Ouais.
Le juge et les policiers savent qu'ils ont affaire à un impitoyable tueur en série, un monstre passé maître dans l'art de la découpe, un maniaque sexuel éprouvant une intense jubilation avec ce jeu de pistes sordides. Un premier suspect va rapidement être identifié. Mardi 22 avril 1997, un mois pile après la découverte des premiers sacs, les policiers de Mons interpellent un homme logeant dans une caravane à Gemeppe-sur-Sambre, près de Charleroi. Un certain Léopold Bogart, 33 ans, qui traînait ces derniers temps en compagnie de Nathalie Godard, la dernière femme à avoir été tuée. Bogart est facile à repérer, il porte en permanence un chapeau de cow-boy. Il est surnommé le Gitan à cause de son visage taillé à la serpe, ses cheveux longs et son collier de barbe. L'homme est surtout connu pour ses accès de violence. Il porte toujours sur lui un couteau papillon qu'il manie à la perfection. Il se serait vanté d'avoir tué Nathalie. Face aux enquêteurs, Léopold Bogart garde le silence. Quartier de la gare, personne ne croit à son implication. Pas assez intelligent pour agir de la sorte, témoigne une patronne de bar. Des prélèvements et des analyses sont effectués, comparés aux traces découvertes sur le tronc de Nathalie. Analyse négative. Malgré les doutes persistants du juge Pilette, le Gitan est remis en liberté après 3 semaines de détention. Des recherches concernant 5 autres individus ne donnent rien. L'enquête sur le dépeceur de Mons repart à zéro. Des investigations désormais confiées à une cellule spéciale baptisée Corpus. Une 15aine de policiers, appuyés par des légistes, étudient le profil des victimes âgées de 21 ans à 43 ans, toutes identifiées. Des femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais attiré l'attention. Juste avant sa mort, Nathalie Godard, la plus jeune de toutes, avait été filmée parmi les participants d'une marche blanche en hommage aux victimes de Dutroux. Les autres victimes, Martine Beaune, Jacqueline Leclerc, Carmelina Russo ou encore Begonia Valencia, étaient presque souvent livrées à elles-mêmes. Begonia Valencia, jeune femme rachitique, 38 ans, était de loin la proie la plus facile. Cette mère de famille habitait seule à Frameries. Elle accusait une santé fragile, avait fait des séjours en asile psychiatrique. Une partie du corps de l'une des victimes, le bassin de Carmelina Russo, a été découvert de l'autre côté de la frontière, dans le nord de la France, à Château-l'Abbaye, dans le fleuve Lescot. Les enquêteurs ne demeurent pas moins persuadés que l'assassin invisible habite Mons ou ses alentours. Et voilà donc que la chasse au tueur bat son plein. Il y a tout de suite cet homme, on va s'arrêter sur lui une seconde, ce fameux Bogart, surnommé le Gitan, Liliane Schroven. Il y a une avancée tout de suite assez rapide dans cette enquête, même si elle ne va finalement rien donner.
Oui, c'est ça. En fait, il était le petit ami, si on peut dire, de Nathalie Godard. Et donc, évidemment, on l'a soupçonné tout de suite, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien expliqué, il était un peu... louche,
ouais,
je dirais.
Et violent, c'était un homme violent.
Il était violent, il aimait bien les couteaux, c'était un marginal, lui aussi, qui vivait un peu en dehors de la société. Il avait un blouson qui portait des traces de sang, notamment, donc le rapprochement a été vite fait. Mais on a fait diverses analyses et ce n'était absolument pas le sang de Nathalie. Et puis finalement, il a été blanchi parce que, selon toute apparence, comme vous l'aviez dit, il n'avait pas les...
Oui.
Les ressources intellectuelles pour se livrer à ce jeu, et surtout parce que il n'y avait aucune preuve qu'il fût où que ce soit sur les lieux du crime ou contexte adéquat.
Il avait en fait tout simplement un alibi, ou en tout cas quelque chose qui permette de l'éloigner de ces scènes de crime. Alessandra D'Angelo, ancienne avocate et journaliste d'investigation, les recherches à l'époque, l'ADN existe déjà, on commence à l'utiliser, cette fameuse cellule Corpus, elle se met en place. Ça aussi, c'est un petit peu nouveau, une équipe spécialement dédiée à la recherche d'un criminel.
Oui, c'était la première fois qu'on mettait en place une équipe avec autant d'effectifs. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en début d'émission, que finalement, on avait très peu d'indices. Je pense que le plus gros raté de cette affaire, si je puis m'exprimer ainsi,
allez-y,
c'est que l'on a profilé les victimes et on n'a pas suffisamment analysé les indices que l'auteur avait volontairement laissés, parce qu'un psychopathe a cette volonté d'être médiatisé. Il a en fait un double besoin de reconnaissance, cette reconnaissance affective avec les femmes qu'il tue et cette reconnaissance médiatique. Et que nous disent ces indices? Vous avez d'abord le dépeçage, qui est très caractérisé et qui est une forme de fétichisme. Pourquoi est-ce qu'on coupe la tête et le tronc? La tête, parce que je m'empare de ton esprit. et le tronc, il abrite le cœur. Donc, sans cœur, il n'y a plus de vie. Mmh. Et donc, en fait, il lance un défi aux enquêteurs. Je vous rends les restes, excusez-moi de parler ainsi, et c'est moi qui ai la main. Alors, les 39 morceaux, les 39 restes qui ont été trouvés correspondent aussi en numérologie à l'ange gardien qui vient vous libérer du mal et qui vient vous sauver.
Vous allez loin, là, Alessandra D'Angelo.
Non, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui en sciences du comportement. Et je pense que si on s'était focalisé sur ce genre d'indices, on aurait très vite compris. Et d'ailleurs, vous avez aussi la rue de Bethléem, vous avez la rue de Saint-Séphorien, qui sont des noms religieux. Je pense que cet homme devait très certainement être croyant, catholique et pratiquant. Il devait certainement travailler dans une quelconque œuvre de bienfaisance ou pour la paroisse, l'une des paroisses dans la ville de Mons. Mmh. Et je pense que si on avait focalisé
on serait allé sans doute plus vite. 1700 pistes vont être examinées au fil des années. Quelques-unes vont faire renaître l'espoir d'identifier cet assassin qui s'est évanoui dans la nature après la découverte des sacs. En cette année 2007, une équipe du FBI est à Mons. Les policiers américains viennent soumettre à leurs homologues belges le cas de Smajo Zurlik. En septembre 90, ce chauffeur de taxi originaire du Monténégro, émigré dans le Bronx à New York, a tué une agent immobilier, Marie Bill, 61 ans. Son corps a été dépecé, disséminé dans des sacs poubelles. Après son crime, Zurlik a pris la fuite. Il est retourné au Monténégro où il a été emprisonné pour deux autres meurtres similaires. Le FBI a établi que lors de sa cavale, le criminel a longuement séjourné en Belgique, notamment à Verviers et à Arlon. L'enquête américaine indique que les découpes opérées par Zurlik ressemblent trait pour trait à celles infligées aux victimes belges. Malgré ces informations, les enquêteurs restent sceptiques. Selon eux, Zurlik a quitté la Belgique 6 mois avant le premier meurtre. Il ne peut pas être le dépeceur de Mons. 3 ans après la piste du tueur en série du Monténégro, un médecin ORL de Mons est interrogé par les enquêteurs. Cet homme de 62 ans, le docteur Jacques A, est alors en détention pour avoir harcelé puis menacé de mort avec un pistolet une jeune esthéticienne. Au mois d'août 2009, puis en janvier 2010, 2 lettres anonymes l'ont désigné comme étant le dépeceur. Des courriers circonstanciés. La piste est séduisante, mais elle se dégonfle. C'est le propre fils du praticien qui déteste son père qui a rédigé ces lettres uniquement destiné à lui nuire. Le médecin n'est plus suspect. Une autre piste également prometteuse conduit la police belge jusque derrière les murs de l'immense base américaine du Shape à Casto, près de Mons, un camp de l'OTAN abritant des centaines de militaires. Certains profils sont étudiés de près, notamment des hommes connus pour violence ou s'étant fait repérer dans le quartier chaud de la gare de Mons. Mais ces vérifications n'aboutissent pas. Voilà, les policiers qui sont sur les traces d'un tueur qu'on n'arrive pas à attraper. Ronald Dersin, en quelques mots, on a l'impression que les policiers y cherchent dans tous les sens à ce moment-là.
Oui, complètement, ça part dans tous les sens. Je pense qu'ils sont complètement désemparés eux-mêmes. Moi, pour m'être rendu sur tous les lieux des découvertes des restes, j'ai vu que c'était... je pense que cette enquête n'a pas été prise au sérieux dès le départ et les investigations n'ont pas été menées, n'ont pas été bien menées et ils étaient désemparés par...
Pourquoi vous dites ça, Ronald Dersin ? Ils ont été dépassés par les événements, les policiers, ou ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait ?
Oui, je pense qu'un fait divers pareil, je pense que voilà, on en voit pas souvent et l'ampleur les a complètement inondés, donc ils étaient pas préparés probablement à ça non plus. J'ai une petite anecdote aussi, je me suis rendu sur tous les lieux des restes où on a découvert les restes humains et je me souviens que j'avais aussi participé à des funérailles d'une des victimes, je pense que c'est Nathalie Godard, et j'avais pris quelques jours de vacances à l'époque et pendant mon absence j'ai été victime d'un vol. On ne m'a rien dérobé à mon bureau, on m'a juste volé, toutes mes archives de cette affaire ont été sans dessus. On m'a volé des clichés Et j'ai été, les enquêteurs sont venus me voir sur mon lieu de vacances pour m'interroger. D'après eux, l'ombre de cette personne était là. Elle regardait en permanence ce qui se passait et elle aurait très bien pu avoir assisté à ses funérailles. Pour lesquels j'y étais. C'est bizarrement, voilà, il n'y a pas eu de lien avec cette affaire. Ça peut être
bien sûr. Mais c'est tout à fait inquiétant ce que vous racontez. Effectivement, ça cadre avec ce que nous disent nos autres invités, à savoir quelqu'un qui surveille, qui prend plaisir à se mettre en scène et à mettre en scène ses crimes. Alessandro D'Angelo, juste quelques mots. La piste du Monténégro, le FBI, il a l'air vraiment affirmatif. Ils disent c'est exactement la même personne qui découpe.
Oui, alors je voulais juste apporter rapidement, une précision par rapport au dernier intervenant. Là où on a peut-être raté quelque chose aussi, souvenez-vous, en 1996, c'était l'arrestation de Marc Dutroux. Et je pense que toutes les forces vives du pays, pour répondre...
Étaient concentrées sur Dutroux pour répondre
aux besoins aussi de la population. Et je pense qu'on n'a pas mis assez d'effectifs sur cette affaire.
Un mot, alors, sur le Monténégro. Vraiment un mot. Le profil, là, vous qui êtes spécialiste de ces profils un peu inquiétants et un peu troublants, là on peut dire que ça correspond. Le FBI, ils sont sur deux.
Mais je pense qu'il y avait aussi une demande de faire appel aux investigateurs américains et voilà, il fallait aussi pour la Belgique démontrer que l'intervention des enquêteurs américains avait été utile dans ce dossier parce qu'il y avait une demande de la part des citoyens, mais voilà, on s'est vite rendu compte que c'était aussi une voie sans issue.
De toute évidence, c'est un fantôme que recherchent les enquêteurs. Le dépeceur ne fait plus parler de lui. Le nombre de ses victimes est donc arrêté à 5 femmes. Même si un doute persiste, et si le tueur avait aussi frappé de l'autre côté de la frontière. 3 août 2003, soit 6 ans après les premiers meurtres, le corps démembré de Janine Skopa, une veuve de 59 ans, est découvert par un adolescent qui se baigne dans un coude de Lescaut, près de Valenciennes. Cette Française, habitant le village de Saint-Hilaire-sur-Helpe, a disparu 6 mois auparavant dans la nuit du 19 février. Au regard des découpes effectuées sur son corps, notamment sur un bras sans main et une jambe, elle pourrait être la 6e victime du dépeceur de Mons. D'autant plus qu'une partie du corps d'une autre victime, Carmelina Russo, a été découverte dans cette même région. Hypothèse séduisante, envisagée par la police judiciaire de Lille, tout comme par celle de Mons, mais jamais corroborée par la suite des investigations. Malgré l'impossibilité de mettre un nom et un visage sur le dépeceur, le parquet de Mons est toujours en charge du dossier. L'Institut National de Criminalistique est régulièrement sollicité pour faire de nouvelles analyses ADN. Des experts psychiatres pensent que le tueur est un homme qui avait 35 à 45 ans au moment des faits, doté d'une grande intelligence et assouvissant un désir de punition. Faute d'éléments nouveaux, l'affaire sera officiellement prescrite en 2027. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, Liliane Schroven, écrivain, auteur des grandes affaires criminelles en Belgique. Je parlais, Liliane Schroven, du cas Janine Skopa. Alors évidemment, vous allez dire, c'est côté français, donc ça nous intéresse plus ici. mais c'est un cas troublant, même s'il n'est pas attribué formellement au dépeceur de Mons.
C'est ça, c'est-à-dire que le présumé auteur, c'est le patron de la scierie du village en question où on a trouvé la dépouille, ou du moins les restes de cette femme, a été soupçonné du meurtre et du dépeçage. On a trouvé des morceaux dans un village à quelques kilomètres de la frontière belge, donc tout près de chez lui, deux jambes, deux bras, emballés dans des sacs poubelles, donc la ressemblance était frappante. L'emploi du temps présent du patron de la scierie en question, hein, dénommé Monsieur Pluchard, il connaissait la victime, on vérifie son emploi du temps, qui présente des trous le jour de la disparition de la personne en question. En outre, on trouve des traces de sang. Il est arrêté, il est mis en examen, il est emprisonné. Il est libéré après 9 jours de détention sans qu'on sache très bien pourquoi. Il reste mis en examen, mais il décède en 2010, et donc le parquet français va rendre un non-lieu posthume en 2011, donc on n'a jamais aucune certitude. Maintenant, moi je voudrais quand même, si vous me le permettez, souligner un aspect intéressant dans cette histoire, c'est intéressant ou interpellant, c'est que tous ces crimes ont eu lieu à un moment bien déterminé, on a trouvé les sacs poubelles visiblement tous jetés à peu de temps d'intervalle et puis il n'y a plus rien eu. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que le coupable est mort? Est-ce que le coupable a quitté le pays et a été faire des méfaits ailleurs? Pourquoi s'est-il arrêté? Un psychopathe, normalement, si c'est bien un psychopathe, ce qui semble être le cas, ne s'arrête pas.
Et ne s'arrête pas, effectivement, on peut voir les choses comme ça. Le fait est, c'est que quand les sacs ont été trouvés, on sait que les victimes avaient été tuées parfois des mois auparavant et qu'elles avaient été conservées dans des congélateurs. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc, il a sans doute joué avec ses corps. Il en a fait des trophées chez lui. C'est tout à fait envisageable. Ronald Dersin, en quelques mots, pourquoi c'est une enquête si difficile, cette enquête du dépeceur de Mons?
Comme le disait votre précédente intervenante, je pense qu'il y a eu aussi... on était en pleine affaire du trou, donc tous les moyens étaient mis là-dessus. Voilà, je pense qu'ils n'étaient pas à la hauteur, les enquêteurs n'étaient pas à la hauteur d'une affaire comme celle-là.
De ce type-là, oui, bien sûr.
Oui, la première, chronologiquement, la première découverte, c'est celle du tronc de Martin Boone. Elle a eu lieu le 24 juillet en 96. J'y étais aussi, sur place. Et à l'époque, je me souviens, ce dossier a été mis dans le placard parce que longtemps on a parlé d'une personne disparue qui aurait pu se faire happer par un bateau, par une hélice de péniche, et le tronc se serait retrouvé dans la Haine, bloqué dans des brochages à proximité d'une petite écluse. Donc ça n'a pas été assez vite.
Oui.
La même chose pour le crâne le crâne découvert dans le verger. Il y a eu un malentendu sur la date. Oui. On nous a dit que ce crâne datait de 30 ans. Oui. Or c'était la victime qui avait 30 ans. Donc il y a eu toute une série
de choses. On est un peu dans le désordre, c'est ça, et que finalement on n'arrive pas à recouper les éléments malgré la cellule mise en place. On n'arrive pas à recouper toutes ces informations. Alessandra D'Angelo, alors évidemment les psys, et vous les connaissez bien, les psys, ces profilers, ils sont beaucoup penchés sur cette affaire du dépeceur. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait arriver peut-être à une solution, arriver à l'identifier un jour ou l'autre?
Alors écoutez, personnellement déjà, mais c'est mon opinion personnelle de cette affaire, je pense qu'il n'y a qu'une seule piste aujourd'hui, c'est que cet individu est décédé parce que effectivement un psychopathe ne s'arrête jamais dans l'escalade de l'agir criminel. Un prédateur a besoin de cette visibilité pour vivre, il a besoin de cette notoriété sociale. Donc pour moi il est décédé. Alors va-t-on pouvoir mettre un nom sur cette personne décédée? J'en doute parce qu'il nous reste là maintenant 5 ans puisque la prescription est trentenaire, comme vous l'avez souligné. L'émission.
Oui,
donc le délai court. Et en plus, que nous disent aujourd'hui les techniques d'ADN, c'est qu'il faut mettre en corrélation l'ADN de cet éventuel individu avec l'ADN enregistré dans nos bases de données. Et il faut savoir aujourd'hui que seulement 20% des profils ADN enregistrés correspondent à des profils ADN retrouvés dans des affaires criminelles.
Donc ça sera effectivement sans doute très compliqué d'arriver à identifier un jour peut-être ce fameux dépeceur de Mons. Merci beaucoup à Alessandra D'Angelo, Liliane Schroven et Ronald Dersin d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.